Chapitre 11. Ce fut en se donnant ce prétexte que le prince, le lendemain, se dirigea vers la maison forestière en partant pour sa promenade à cheval. Il voulait remettre les fleurs à sa fiancée en passant, afin qu'elle les eût dans toute leur fraîcheur. Mais il avait décidé qu'il ne s'arrêterait pas. Cependant, un instant plus tard, il était debout près d'elle, baisant les mains, dont l'une portait la bague de fiançailles, un cercle de platine orné d'une seule perle, petite, mais d'un orient très pur, que Vladimir avait choisi afin qu'elle n'attirât pas l'attention. Lilia, ce matin, avait l'air d'une délicieuse petite fille, avec sa jupe noire un peu courte, son corsage de lainage gris clair, dont l'encolure un peu basse découvrait le plus joli cou du monde, ses cheveux aux chauds reflets formant bandeaux et retombant en deux nattes retenues par un ruban noir. Dans le visage rosé, sous les cils frémissants, les yeux brillaient de tendresse joyeuse. « Que tu es jolie ce matin, ma petite âme ! Oui, rougis, baisse tes beaux cils, cela te va si bien ! Quelle trouvaille de la nature, ces cils foncés et ces merveilleux cheveux blonds !» Il riait, baisant les nattes de Lilia et voilant sous cette gaieté, sous cet air tendrement amusé, la trop vive ardeur de son admiration. « Que vas-tu faire ce matin? Sans doute aller voir ton braconnier ?»« Non, demain seulement. Aujourd'hui, je finis de tailler dans une vieille robe de Madame Fabien un jupon pour une femme âgée, dépourvue de tout. Irina ira le lui porter avec quelques aliments. » « Ce sont des misères navrantes, je t'assure, Volodia. »« Eh bien, je ne refuse pas de t'aider à les soulager, ma chérie, du moment où cela peut être agréable. En revenant te voir, je t'apporterai de quoi satisfaire tes désirs charitables. » C'est ainsi que, dès ce matin-là, Vladimir tint la résolution de fermeté prise la veille. Loin de s'en repentir ensuite, il pensa que ce n'était pas payé trop cher la joie reconnaissante de Lilia et le baiser fervent qu'elle avait mis sur sa main avant qu'il eût pu l'en empêcher. Mais il fallait décidément songer au départ. Vladimir fixa enfin une date et, quelques jours avant, fit appeler chez lui Ofnik. « Tu continueras de veiller sur la comtesse Semenkov ainsi que tu l'as fait jusqu'ici, lui dit-il. Voici une somme destinée à lui procurer tout le confort que tu pourras lui donner dans sa situation. En outre, il faut qu'Irina lui confectionne quelques vêtements pour le jour où je pourrai l'amener à son père. » Il donna encore au vieux garde d'autres instructions, se rapportant aux précautions à prendre pour la correspondance qu'il échangerait avec sa fiancée. Afin de ne pas éveiller l'attention, la suscription des lettres de Lilia serait mise par Ofnik et ses lettres adressées au secrétaire du prince, dont celui-ci était sûr. Quant aux siennes, Vladimir les enverrait tantôt à l'adresse du garde, tantôt à celle d'Irina. « J'espère, ajouta-t-il, que tout ce mystère ne durera pas longtemps, mais il est nécessaire de le laisser subsister encore, tant que je n'aurai pas vu le moyen d'éloigner cette femme du comte Semenkov et de remettre Lilia Andreevna à la place qui est la sienne. La comtesse, dès qu'elle se verra menacée, cherchera à connaître où se trouve celle qu'elle croyait à jamais disparue. Si elle y arrivait, ce serait pour Lilia le plus terrible danger, car je soupçonne que cette créature ne reculerait devant rien. Mais c'est ici que la pauvre enfant sera le mieux cachée, en attendant que je puisse lui donner ma protection de tous les instants. » Ofnik écoutait avec une attention respectueuse. Il lui fallait reconnaître que son maître montrait à l'égard de Lilia la plus vive sollicitude et qu'on ne pouvait, jusqu'ici, trouver de reproches à lui faire. Mais le doute restait néanmoins ancré dans l'esprit du vieux garde. Il voyait déjà le prince, loin de Sanitza, oubliant Lilia pour une autre fantaisie, et la pensée de la souffrance qui en résulterait le terrifiait, car elle l'aimait tant, cette pauvre petite, avec une si effrayante confiance. La veille du départ de Vladimir, un dimanche, Lilia, à la messe, chanta comme de coutume. Le chagrin de la séparation prochaine l'oppressait un peu. Son regard, de temps à autre, se glissait vers le bel officier qui se tenait debout, les bras croisés, dans une attitude de correction hautaine. Elle pensait tristement. « Il ne prie pas, mon cher Vladimir. Mon Dieu, faites que je sois une épouse très chrétienne pour le ramener à vous. » Puis d'autres pensées tentaient de s'insinuer en elle, des pensées d'orgueil. Ce prince de Wittenagemsee était un des puissants de ce monde. Il avait dit un jour à Lilia, en parlant de la façon dont on l'avait élevé, « On me craint, on m'admire, on m'encense depuis mon enfance. » Et elle, pauvre, obscure en apparence, confondue avec les tenanciers du domaine, elle était cependant la fiancée bien-aimée de ce descendant des princes régnants de Wittenagemsee qui recevait avec tant d'altière aisance les honneurs liturgiques réservés au souverain. Mais des tentations de ce genre ne pouvaient qu'effleurer l'âme de Lilia. Elle s'humilia aussitôt avec ferveur. Jamais elle n'avait plus ardemment prié, jamais non plus elle n'avait chanté avec tant de chaudes émotions. Vladimir, en la regardant, en l'écoutant, songeait « Elle est trop pieuse pour moi, beaucoup trop pieuse !» Mais par une contradiction qu'il ne cherchait pas à s'expliquer, il n'aurait pas voulu qu'elle fût autrement. La beauté de l'âme, chez Lilia, lui était presque aussi précieuse que cette beauté physique dont il était pourtant si épris. L'office terminé, les fidèles quittèrent l'église en se bousculant un peu pour voir le prince monter en voiture. Lilia, Ofnik et Irina sortirent dans les derniers. La jeune fille, tout à coup, fut heurtée violemment au passage et faillit tomber. En tournant la tête, elle vit près d'elle Dounia Strednov, qui ricanait en la dévisageant avec une haineuse insolence. L'intendant, qui se trouvait près de sa fille, lui saisit le bras et chuchota « Allons, pas de bêtises !» Et il emmena vers un groupe formé de sa mère, de ses frères et sœurs et de quelques amis. Lilia, un moment, resta stupéfaite. Que lui voulait cette jeune fille avec laquelle jamais elle n'avait eu le moindre rapport? Péniblement impressionnée, elle raconta le fait à Ofnik et à Irina, tandis qu'ils revenaient tous les trois vers la maison forestière. Ofnik s'exclama « Eh bien, j'aurais voulu voir ça! Elle aurait eu sa leçon, la sotte, une coquette, une effrontée !»«
Mais enfin, je ne lui ai rien fait !»
« Non, bien sûr, Marina. Est-ce que vous seriez capable de faire le moindre mal à quelqu'un? Mais c'est précisément parce que vous êtes bonne et pieuse que cette Dounia Petrovna vous jalouse. » Irina ajouta d'un ton de colère « Qu'elle ne s'avise pas de recommencer. Être insolente avec vous, ma tourterelle, je crois que si son Altesse savait cela, cette péronnelle passerait en mauvais quart d'heure. »
« Mais il ne le saura pas, car ce n'est pas nous qui le lui dirons. C'est une petite méchanceté sans importance qui m'a fait de la peine sur le moment, voilà tout. »
En réfléchissant à l'incident, un peu plus tard, Ofnik y attacha une autre signification. Les Strednov n'avaient-ils pas des soupçons injurieux au sujet de Lilia? Et, après tout, avec ses quotidiennes visites du prince, les apparences étaient contre elle. Le vieillard serra les poings. Cette idée le mettait en rage. Il savait en outre quelle langue vipérine était celle de l'intendant. Par ses soins, les racontars se répandraient dans tout le pays. « Si j'étais sûr de la chose, j'en dirais un mot à son Altesse, » pensait le vieillard. Irina, quand il lui en parla, fut d'avis qu'il valait mieux se taire pour le moment.
« On ne peut accuser les gens sans preuve, Nicolas. » Surtout avec un homme comme le prince, qui n'y va pas par quatre chemins pour punir, nous en savons quelque chose.
La bonne vieille était fort affairée ce matin-là. Le prince venait déjeuner à la maison forestière avec sa fiancée. Il avait ordonné de faire un repas très simple, mais Irina s'affolait néanmoins un peu, car tout était si modeste en leur logis.
« Allons, laisse-moi m'occuper de cela, » disait Lilia en souriant. « Tu n'en sortiras jamais, ma pauvre Irina !»
Et sans écouter les protestations de la fidèle servante, elle étendait la nappe de grosse toile sur la table de sapin ciré, elle plaçait les assiettes à fleurs, les couverts d'étain, la verrerie grossière, avec une dextérité qui faisait dire à Ofnik « Vous avez des mains de fée, Barina !»
Les inquiétudes d'Irina étaient vaines, car Vladimir n'accorda aucune attention au service ni au plat qu'on lui présenta. Il était tout occupé de Lilia et oubliait même de manger, en contemplant le charmant visage attristé qui lui souriait avec un peu d'effort. Car cette séparation semblait si dure à Lilia, et elle ne l'était pas moins pour Vladimir. Lui eût-on dit quelque temps auparavant qu'il éprouverait tant de peine à quitter une femme pour au moins ou deux tout au plus, il aurait levé les épaules en riant avec le plus moqueur dédain. Cependant, il en était là. Lilia, sa jolie biche sauvage, devenait le centre de sa vie, comme il lui répétait en couvrant de baisers les nattes fauves, le front doux comme les pétales satinés de ses roses venues des serres de Vélaïna qu'il avait apportées à sa fiancée. « Tu es ma seule affection. Avant toi, personne n'a su se faire aimer de moi. Non, personne, pas même dans ma famille. J'ai été une idole pour mes grands-parents, pour mes amis, pour tous, mais mon cœur est resté froid, indifférent, jusqu'au jour bienheureux où je t'ai rencontré. » Quand les fiancés, quittant la table, allèrent s'asseoir à leur place habituelle, le vieux garde et sa sœur les suivirent des yeux. Tous deux songeaient, ils sont faits l'un pour l'autre à les voir comme cela. Notre petite comtesse, quand elle sera mise selon son rang, éclipsera les plus belles. Mais pourvu qu'ils ne la rendent pas malheureuse, pauvre agneau !» Avant de partir, le lendemain matin, Vladimir vint adresser un dernier adieu à sa fiancée. Il lui redit encore son espoir d'arriver à une prompte solution près du comte Semenkov, ce qui permettrait de fixer à une date peu lointaine la cérémonie nuptiale. « En tout cas, je ne crois pas que je puisse rester plus d'un mois sans te revoir, ma petite Lilia. Et si, pour un motif quelconque, tu avais besoin de moi, écris vite, j'arriverai aussitôt. »